De retour à la maison, un peu enivré par l'alcool, j'ai accroché sous le porche mon nouvel Ohala Isan. Comme ça, j'étais enfin prête à accueillir l'été, le cœur tout neuf. Il n'y avait personne dans les parages. J'en ai profité pour discrètement murmurer « Bonne année !» Avais-je été entendue ? Au même moment, une bourrasque d'air chaud a fait danser les bandelettes de papier bleu clair. Comme pour prouver que l'été était bien là, dès le lendemain, les cigales se sont mises à chanter. Elles étaient pourtant encore muettes la veille. À peine le mois de juillet entamé, voilà qu'elles se manifestaient, c'était étrange. Avec la saison des pluies qui s'était achevée tôt cette année, l'été s'installait pour de bon. Mais pour être honnête, l'été c'est la morte saison pour la papeterie Tsubaki. Non seulement pour la boutique, mais pour Kamakura dans son ensemble. Les visiteurs se font rares. Il y a un peu d'animation autour de la gare, mais la plupart des gens vont à la mer, du côté de Yuigahama et de Zemokuza. Il y a aussi moins d'endroits à visiter. Même le temple Megetsu-in de Kitakamakura, réputé pour ses hortensias, les coupe tous dès le mois de juillet. En plus, comme il fait terriblement chaud, cela décourage sûrement les touristes. Vu le peu d'activité dans la boutique, je me suis affairée à mettre de l'ordre dans la maison. Tante Sushiko avait fait du rangement, mais il restait encore un peu partout des affaires ayant appartenu à l'aîné. S'il s'était agi d'objets de prix, j'aurais pu les vendre à un antiquaire, mais les possessions de l'aîné n'avaient pas la moindre valeur historique. Pour la plupart, c'était de vieux chiffons de papier sans intérêt. Dans le tas, j'ai même découvert des exercices de calligraphie, a priori de ma main. J'ai rassemblé et fourré le tout dans des sacs poubelles. Si par hasard un client venait, il pouvait utiliser la sonnette installée dans la boutique pour signaler sa présence. La papeterie est ouverte de 9h30 jusqu'au coucher du soleil. Au crépuscule, alors que je songeais à bientôt fermer, la sonnette a faiblement retenti. J'ai couru vers le magasin où se tenait une dame dans les 65 à 70 ans, typique de la bourgeoisie locale. Mais je ne la connaissais pas. Petite et frêle, elle portait une robe à manches bouffantes bleu marine à pois blancs et tenait à la main une ombrelle à pois coordonnée. Sa tête était couronnée d'un magnifique chapeau de paille orné d'une fleur artificielle et ses mains gantées de dentelles blanches. On aurait dit l'image d'une bouteille de Kalpis. Lorsque je l'ai saluée, Madame Kalpis s'est exclamée. « Il paraît que Gonosuke de chez les Tsunada est mort ce matin. » C'était potentiellement un travail d'écrivain public. Cette cliente n'était pas venue acheter des articles de papeterie, je le sentais. En cette matière, mon instinct est aussi sûr que celui de l'aîné. La papeterie Tsubaki est, comme son nom l'indique, un petit commerce de papeterie qui n'affiche pas son activité d'écrivain public. Malgré tout, les gens du voisinage et les anciens clients ont de temps en temps recours à mes services. « Monsieur Gonosuke, dites-vous. » Ni ce nom ni celui des Tsunada ne me disaient quoi que ce soit.
« Vous ne le connaissez pas. Il est pourtant célèbre par ici. »
Je suis désolée. J'avais comme une idée que la conversation allait s'éterniser. J'ai attendu le bon moment pour proposer un tabouret à Madame Kalpis. Elle s'est avancée en boitillant et s'est assise avec grâce. J'ai apporté un verre de café d'orge frais. J'en avais au réfrigérateur dans l'arrière-boutique et je le lui ai présenté posé sur un plateau.
Je savais depuis longtemps qu'il avait une maladie de cœur, a-t-elle repris. La chaleur soudaine des derniers jours a sans doute eu raison de ses forces. La veillée funèbre aura lieu demain et la crémation après-demain, m'a-t-on indiqué.
Ah bon ? Ai-je répondu sans trop m'engager. Je ne saisissais pas encore bien la situation. Je n'avais entendu parler d'aucun décès dans le quartier.
J'ai peine à marcher, voyez-vous. J'aurais préféré y aller, mais puisque c'est impossible, j'aimerais au moins faire une offrande.
En effet, Madame Kalpis avait la cheville gauche bandée. Voilà qui expliquait sans doute pourquoi elle avait traversé la boutique en boitillant. Bien sûr, ai-je approuvé d'un ton pénétré.
Pourriez-vous rédiger de toute urgence une lettre de condoléances pour accompagner mon offrande ?
Bien entendu, ai-je répondu laconiquement, les yeux sur les mains de mon interlocutrice. Il fallait éviter de dévisager les clients venus demander la rédaction d'une lettre, m'avait un jour appris l'aîné. Chacun avait ses raisons bien à lui.
Depuis, quand j'écoutais les explications d'un client, au lieu de le fixer dans les yeux, je m'efforçais de diriger mon regard vers ses mains. Les bras de Madame Kalpis étaient bien bronzés, étonnamment musclés et robustes. « Quand je pense au chagrin que doit avoir Madame Sunada, » a-t-elle dit. Pleurait-elle ou transpirait-elle? Impossible à dire, mais elle a sorti un mouchoir pour se tamponner le visage. Il était orné de pois, comme sa robe. « Voulez-vous bien me raconter quelques-uns de vos souvenirs avec Monsieur Gonosuke ?» ai-je demandé. Madame Kalpis a saisi des deux mains son verre de café d'orge qu'elle a bu d'un trait. Il était déjà plus de 18 heures, mais le thermomètre affichait encore près de 30 degrés. Pour rédiger une lettre de condoléances, il me fallait quelques informations sur Monsieur Gonosuke. « C'était un petit très intelligent », a déclaré Madame Kalpis avec fierté. « Madame Sunada n'a pas eu d'enfant, vous savez, et c'est pour cela qu'elle a recueilli Gonosuke, en accord avec son mari. Leurs proches y étaient vivement opposés, m'a-t-elle dit. »
C'était donc le fils adoptif de Monsieur et Madame Sunada, c'est bien cela? Ou il était en famille d'accueil?
Si c'était le cas, ce lien inespéré qui se brisait, quelle tristesse cela devait être pour les Sunada.
C'est possible, mais...
a éludé Madame Kalpis d'une drôle de voix, avant de sortir son téléphone portable et de pianoter dessus.
Ah, voilà, Gonosuke, c'est lui,
a-t-elle ajouté d'un ton qui semblait me reprocher mon ignorance. Elle m'a montré une photographie un peu floue. Au début, je n'ai pas bien saisi ce que je voyais, mais pour sûr, ce n'était pas un être humain.
« C'est un singe ? » ai-je demandé, hésitante.
Avec un hochement de tête, elle a refermé son téléphone portable d'un geste sec.
Il avait perdu son maître et vivait dans un refuge quand Madame Sunada l'a découvert, paraît-il.
Tout en parlant, elle a extirpé de son sac à main une enveloppe pour offrande funéraire et l'a posée sur la table. Dessus, un papillon autocollant portait son nom.
« Je suis désolée de vous presser, mais faites le plus vite possible, s'il vous plaît. »«
C'est entendu.
Je vous paierai la prochaine fois. Vous serez gentille de préparer une facture. »
Sur ces mots, appuyée sur l'ombrelle qui lui tenait lieu de canne, Madame Kalpis a quitté la papeterie Tsubaki. Elle avait le pas un peu plus léger qu'à son arrivée. J'ai fermé la boutique et me suis mise au travail sur le champ. Comme les lettres de condoléances sont régies par de nombreuses règles, j'ai ouvert le vade-mecum laissé par l'aîné pour me les remémorer. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai commencé à préparer l'encre. Pour des condoléances, la règle veut qu'on broie l'encre à l'envers, de droite à gauche. Comme je faisais presque toujours le geste de gauche à droite, j'étais un peu malhabile dans le sens inverse. En faisant bien attention de ne pas frotter trop fort le bâton, j'ai fait couler l'encre dans le réservoir de la pierre. Dans ces cas-là, on prépare une encre assez délayée. Pour ce qui est des formules à éviter, on fait en sorte de ne pas utiliser des mots tabous comme « encore une fois »,« à nouveau », »,« une fois de plus ». De même, pour éviter d'attirer la mort une nouvelle fois, on n'ajoute pas de post-scriptum. On peut également se dispenser des titres honorifiques et des formules de politesse. J'ai posément soulevé mon pinceau. En un instant, j'ai rassemblé en moi toute la tristesse du monde, comme si mes glandes lacrymales étaient aimantées. Dedans, il y avait mon chagrin d'enfant à la mort de mon poisson rouge et la peine que m'avait causée la disparition de Tante Sushiko. L'annonce du décès soudain de Gonosuke m'a laissée désemparée, les yeux perdus dans le ciel. Quelle tristesse! Je savais qu'il était malade, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il nous quitterait si tôt. Je peine à y croire. Je me souviens de Gonosuke, de son beau regard et de la sérénité avec laquelle il m'accueillait toujours. Paix à son âme. Votre tristesse est sans doute insondable, mais je vous en prie, soyez fort. J'aurais aimé vous rendre visite dans les meilleurs délais, mais ma santé me l'interdisant malheureusement, veuillez accepter une offrande symbolique. Déposez-la sur son autel, s'il vous plaît. Permettez-moi par la présente de vous adresser mes plus sincères condoléances. Ce message de sympathie, je l'ai rédigé avec une encre beaucoup plus pâle que d'habitude. Délayer l'encre, c'est le signe d'une grande tristesse,
Les larmes tombées sur la pierre à encre en ont éclairci la couleur. Pendant que j'écrivais, l'image de Madame Calpis m'est apparue à plusieurs reprises. Un bref instant, il m'a semblé que sa main se superposait à la mienne, que nous tenions le pinceau ensemble. Après avoir calligraphié à l'encre pâle sur un rouleau de papier blanc, j'ai plié la feuille à l'envers, de façon à ce que l'écriture soit apparente. Normalement, pour une correspondance formelle, on utilise une enveloppe doublée, mais pour les messages de condoléances, on choisit au contraire une enveloppe simple pour éviter de redoubler le malheur. Bien entendu, celle-ci doit être d'un blanc immaculé, comme le papier, de même qu'on évite de porter du maquillage ou des accessoires trop voyants lors de funérailles. Une fois séchée l'encre pâle de l'adresse et du nom du destinataire au centre de l'enveloppe, j'y ai glissé le message de condoléances et je l'ai déposé bien en vue sur l'autel bouddhique de l'aîné et de tante Tsuchiko. Cela éviterait de la salir. Seulement l'enveloppe n'était pas encore cachetée. Même pour la lettre la plus convenue qui soit, la règle est de la sceller le lendemain matin. Cela permet de la relire à tête reposée après une bonne nuit de sommeil. « Le diable se cache dans les missives nocturnes », disait souvent l'aîné de son vivant. Voilà peut-être pourquoi elle évitait généralement de s'atteler à ses travaux de calligraphie à la tombée de la nuit. Quand j'ai eu fini, la pendule indiquait presque 21 heures. Les cigales déchaînées dans la journée avaient fini par se taire pour la nuit, le calme régnait aux alentours. Le silence était tel qu'on se serait cru au fin fond des montagnes, mais il faisait encore lourd. Décidée à dîner léger, je suis sortie avec seulement mon portefeuille. À Kamakura, la journée commence tôt et du coup, le soir, les commerces ferment de bonne heure, mis à part quelques restaurants qui restent ouverts un peu plus tard. Je m'étais tellement concentrée sur le message de condoléances que j'avais l'esprit en ébullition. J'aurais eu du mal à fermer l'œil sans l'aide d'un verre d'alcool. Je suis entrée dans un bar à vin proche de la gare, où j'ai bu un verre de rosé aux jolis reflets à la mémoire de Gonosuke. Qu'il repose en paix, ai-je souhaité en picorant du pâté à la pistache et aux haricots blancs. C'était ma première lettre de condoléances. Je devais être soulagée de m'en être acquittée sans difficulté, car l'alcool m'est monté à la tête plus vite que d'habitude. J'ai quitté le bar à 22h30 pour attraper le dernier bus à destination du sanctuaire Kamakuragu. Le lendemain matin, j'ai relu la lettre comme si je découvrais chaque mot. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait ni faute ni tournure maladroite. J'ai méticuleusement cacheté l'enveloppe avec de la colle et pour finir, je l'ai estampillée du caractère « rêve ». J'ai joint le message à l'offrande et envoyé le tout par lettre recommandée. Bien entendu, je n'avais pas oublié d'écrire le nom de Madame Calpis sur l'enveloppe contenant son offrande. Ce matin-là, en fin de semaine, j'étais en train d'étendre la lessive dans le jardin quand Madame Barbara m'a interpellée. « Et si on sortait prendre le petit-déjeuner ?»« Bonne idée !» On était dimanche. La papeterie Tsubaki était fermée pour la journée. Je n'avais rien de prévu. J'aurais pu participer à la séance de méditation du temple voisin, mais le soleil tapait si fort de bon matin que le simple fait de sortir ma lessive m'avait découragée. Ce ne serait peut-être pas mal de prendre le petit-déjeuner à l'extérieur, histoire de se changer les idées. Cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Où voulez-vous aller ? J'ai parlé un peu plus fort pour que Madame Barbara m'entende bien. Elle était de l'autre côté de la haie d'hortensia, en train d'appliquer son rouge à lèvres avec soin. À cause de la chaleur des derniers jours, les hortensias étaient complètement à plat. Il n'y a rien de plus triste que des fleurs d'hortensia fanées. Mais nous avions beau être amis, je ne pouvais tout de même pas me permettre de couper des fleurs qui poussaient chez elle. « Appelle-moi quand tu seras prête, veux-tu » a-t-elle lancé, les lèvres élégamment maquillées de rose, alors que j'étendais un dernier soutien-gorge. Celle à qui il fallait toujours du temps pour se préparer, c'était elle, mais je n'ai pas relevé. Elle était encore devant son miroir à pincer les lèvres pour uniformiser son rouge à lèvres. Décider d'une sortie à l'improviste sans en convenir par avance est le privilège des relations de voisinage. À vrai dire, quand j'étais petite, on ne se fréquentait pas tant que ça. Je n'ai pas le souvenir que l'aînée ait été proche de Madame Barbara,
ni qu'elles aient au contraire entretenu de mauvaises relations. Au mieux, on se voyait pour faire circuler la feuille d'information sur la vie du quartier. Mais maintenant que je suis une adulte, depuis mon retour à Kamakura, nous nous entendons plutôt bien, Madame Barbara et moi, et nous nous voyons régulièrement. J'ai avec elle une relation agréable, ni trop proche, ni trop distante. Nous avons démarré un peu après 8 heures, avec Madame Barbara juchée sur le porte-bagage de mon vélo. Cela m'inquiétait un peu de la prendre ainsi sur ma bicyclette à son âge, mais elle était très agile et elle me tenait fermement par la taille. Assise en Amazone, elle avait la fraîcheur d'une étudiante. Nous descendions à vive allure l'avenue Komachidori presque déserte encore quand elle a proposé. Et si on allait chez Garden puisqu'il fait beau aujourd'hui? Au fond de moi, je l'avais espéré. Nous avons traversé les voies au passage à niveau pour prendre derrière la gare. Le long de la ligne Yokosuka s'épanouissaient de superbes fleurs blanches, un spectacle qui me rappelait immanquablement que l'été était bien là. Nous avons pris la rue Imakoji en direction de chez Garden. Le restaurant Garden House est situé près du supermarché Kinokuniya qui fait le coin juste avant le Starbucks. En cette saison, c'est agréable de manger en terrasse devant les collines qui s'étendent à l'horizon.